Dialogue entre Congolais présenté par Félix Piquet.
Bonsoir et bon début de semaine à tous. Clôture ce week-end du colloque sur la politique de distribution des terres en RDC. Au cours de ses travaux, le ministre des Affaires frontières a dénoncé l'ingérence de certaines personnalités qui s'attribuent des terres et invitent au respect de la loi foncière pour permettre une bonne urbanisation du pays. Comment analyser les propos du ministre et que faire pour remettre de l'ordre dans le secteur foncier en RDC? C'est le thème du dialogue entre Congolais de ce lundi 6 février 2012. Pour en parler, je reçois dans cette émission pour le débat Dunia Idumbo, directeur chef des services contentieux au ministère des Affaires foncières du gouvernement central. Monsieur Dunia, bonsoir. Steve Mbikai, député élu de la Tchangou à Kinshasa et membre de l'opposition. Il est président du Parti travailliste. Monsieur Mbikai, bonsoir. Il n'est pas encore là, il va nous rejoindre dans un tout petit moment. Le professeur Chibangu Kalala, professeur de droit à l'université de Kinshasa. Il est avocat. Bonsoir professeur.
Bonsoir.
Vous êtes déjà très nombreux à nous envoyer vos réactions. C'est le cas de Robert Baume de Bukavu aussi. Les propos du ministre des Affaires foncières n'est pas loin de la vérité. Cependant, je pense que ce qui pose réellement problème dans le secteur foncier en RDC, ce n'est pas l'ingérence de certaines personnalités dans la distribution des terres, mais plutôt l'absence ou carrément l'inexistence matérielle d'une planification dans ce domaine et surtout le non-respect strict de la loi foncière. Chico Sibiri de Lubero, Nord Kivu, je crois qu'à mon avis, le ministre ne doit pas seulement dénoncer l'ingérence des personnalités politiques, il doit aussi nous dire quelles sanctions faut-il imposer non seulement contre ces personnes qu'il connaît bien, mais aussi à tous ceux qui contribuent à la violation des textes relatifs aux affaires foncières, dont ses propres agents des services techniques. Merci de nous suivre partout en RDC sous la fréquence FM et pour vous qui êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radioocapi.net. Bienvenue à tous dans cette émission.
Radio Okapi. Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Il s'est tenu ce week-end à Kinshasa un colloque sur la politique de distribution des terres en RDC. Pendant deux jours, conservateurs des titres immobiliers et chefs des divisions des cadastres ont réfléchi sur le problème de constructions anarchiques. Le ministre Majki Simba, qui a clôturé ses travaux, dénonce l'ingérence de certaines personnalités qui s'attribuent des terres et invite au respect de la loi foncière pour permettre une bonne urbanisation du pays. On écoute Majki Simba, ministre des Affaires foncières, au micro de Paul Félicien Nanga.
Il s'agissait ici d'évaluer le travail qui a été fait entre-temps, mais de dénoncer effectivement tous ces lotissements anarchiques qui, n'est-ce pas, pénalisent le développement et aussi causent préjudice à la population. Pour ce qui est des affaires foncières, nous pensons que les responsables identifiés seront sanctionnés et nous profitons de cette opportunité pour également fustiger l'ingérence de certains services ou de certaines personnalités non compétentes dans la gestion de la terre pour permettre à ce que le travail se fasse sereinement. Pour cela, il faut armer le moral des agents, il faut brandir encore la loi foncière et nous sommes en train de travailler sur le projet d'informatisation qui permettra une bonne fois pour toutes effectivement de sécuriser davantage notre population.
Monsieur Dunia Idumbo, vous êtes directeur chef des services contentieux au ministère des Affaires foncières du gouvernement central. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé le ministère à organiser ce colloque en ce moment?
Oui, effectivement, on a eu à le constater et que ce qu'on était en train de fustiger, donc c'est-à-dire les lotissements anarchiques, c'est revenu au galop. Alors, parmi les causes, nous avons ici, donc parmi ce qu'on a pu dénoncer comme cause, il y a trop d'ingérence de certains services extérieurs. Donc, qui essaient un peu de...
Quels services, par exemple?
Il y a, bon, pour ne pas les citer, il y a, parfois, il y a les responsables de l'armée, la police, voire même certains au cadre de la magistrature, partout. Donc, entre guillemets aussi, parfois des services de sécurité. Alors, nous avons compris que pour essayer de mieux bloquer la plupart de ces lotissements anarchiques, il faut Parce que vis-à-vis de ces services, on n'a pas compétence de pouvoir les contrôler ou pouvoir mettre fin à tout ce qu'ils sont en train de faire. Alors, tout simplement, ce que nous avons comme, nous, comme outil, comme moyen de sauvegarde, c'est tout simplement réarmer nos collaborateurs à nous qui sont les conservateurs et les chefs de division de cadastre, en leur rappelant qu'effectivement, nous avons mission de pouvoir gérer les domaines privés de l'État, mais nous devons le faire d'une manière, donc d'une manière concrète, telle que prévue par les lois de la République. Et voir comment ils peuvent, avec ce que nous avons comme outil de travail, c'est comment ils peuvent au moins donc contrer toutes ces sollicitations de lotissement anarchique. Donc, c'est comme ça, on a pu ramener tous les responsables, parce que les affaires foncières, nous avons deux branches. Il y a les titres immobiliers et les cadastres. Donc, nous avons estimé de pouvoir ramener tous nos collaborateurs à Kinshasa, et c'est un peu de pouvoir les réarmer pour voir comment ils peuvent contrer ces lotissements anarchiques. Tout simplement, nous disons ceci. Désormais, si vous établissez des titres dans un lotissement anarchique, vous mettez votre propre responsabilité là-dedans. Si vous êtes agent de cadastre, vous allez borner, vous participez vous aussi à la régularisation de ces lotissements anarchiques. D'où les rappels à l'ordre et voir ce que nous avons comme possibilité.
Est-ce que c'est la première fois que vous puissiez faire ce rappel à l'ordre?
Bon, ce n'est pas vraiment la première fois parce que en 2007.
Vous pensez que le message est passé?
Oui, effectivement, en 2007, on a eu à le faire. En 2009 aussi. Mais maintenant, avec, donc, chaque fois, on dit souvent, la répétition, c'est la mère de la science. Donc, chaque fois, il faut toujours essayer un peu de rappeler à l'ordre, voir ce que nous devons faire par rapport à ce qu'on a comme garde-fou. Or, notre garde-fou, ce sont nos collaborateurs qui sont dans des circonscriptions foncières. Donc, avec comme conséquence, il y a un lotissement anarchique, nous ne pouvons pas contrer ceux qui sont en train de faire ça, parce que pour le moment, nous sommes en train de voir comment nous pouvons mettre en place une police foncière.
Vous ne pouvez pas contrer, c'est-à-dire ces personnes-là sont au-dessus de la loi
Non, je ne dis pas qu'ils ne sont pas au-dessus de... Ils ne dépendent pas de nous sur le plan coercition. S'ils dépendaient de nous, on allait frapper. Mais comme ils ne dépendent pas de nous, nous devons nous bloquer par rapport, pour ne pas les laisser avancer, nous devons nous bloquer par rapport à nos collaborateurs qui sont les conservateurs et les chefs de division de cadastre. Et certains, donc, et des géomètres, en disant, les chefs de division, les conservateurs, vous ne donnez rien comme titre par rapport à ceux qui occupent des lotissements anarchiques. Ils peuvent faire leur lotissement, mais vous ne donnez pas comme titre. Et puis, les chefs de division du cadastre ne signaient rien comme ordre d'émission pour aller régulariser par rapport au mesurage et bornage, tout ça. Donc, vous comprenez, donc, c'est par rapport à ça que nous disons, voilà, nous allons réarmer nos hommes pour ne pas tomber dans ces lotissements anarchiques.
Alors, lorsque le ministre dénonce l'ingérence de certaines personnalités, est-ce un aveu d'impuissance?
En quelque sorte, ce n'est pas un aveu d'impuissance. Mais nous disons, c'est la seule façon de pouvoir le faire, c'est de pouvoir dénoncer ça. Donc, on dénonce, bon, pour...
Vous dénoncez, mais qui va arrêter ça? Vous vous limitez à dénoncer seulement?
À dénoncer et l'autorité à qui dépendent toutes ces personnalités que nous allons dénoncer doit quand même prendre toutes ses responsabilités.
Professeur Tshibangu Kalala, vous êtes professeur de droit à l'Université de Kinshasa et avocat. Comment vous analysez le propos du ministre lorsqu'il dit, il dénonce, par exemple, certaines personnalités impliquées dans des constructions anarchiques. Vous avez suivi Monsieur Dunia, directeur chef des services contentieux au ministère des Affaires foncières, qui dit qu'ils sont limités à un certain niveau, ils ne peuvent plus contrer ces personnalités, entre guillemets.
Oui, madame, d'abord, je commence par saluer le ministre Magic Kisimba.
J'espère qu'il nous suit.
J'espère qu'il suit cette émission. Et je sais qu'il a fait un travail avec beaucoup de volontarisme à la tête du ministère des Affaires foncières. C'est vrai que le problème de lotissement anarchique, d'occupation anarchique de terrain, même... dans la périphérie de Kinshasa, si pas en pleine ville de Kinshasa et à travers le pays, c'était un problème assez récurrent, assez chronique. Je crois que tous les gouvernements qui se sont succédés à la tête de notre pays ont eu à faire face à ce fléau. Bon, nous espérons que le gouvernement, prochain gouvernement, prendra des mesures beaucoup plus radicales, n'est-ce pas, et drastiques pour mettre fin à ce fléau. Il y a eu à un moment donné, ici dans la ville de Kinshasa, on a vu le gouvernement provincial avec des bulldozers en train de raser certains quartiers, certains taudis, dégager les voies publiques. Donc c'est un phénomène assez récurrent. Je pense qu'il faut vraiment prendre des mesures radicales. S'il y a certains responsables politiques ou autres qui utilisent la petite parcelle de pouvoir qu'ils ont dans tel ou tel domaine de la vie et qui essaient un peu de perturber le bon fonctionnement de ce secteur important de notre économie, je pense qu'il faut absolument envisager des mesures draconiennes, allant jusqu'à des sanctions. Et s'il y a des infractions à caractère pénal, il faut absolument déférer ces personnes devant la justice pénale pour qu'elles soient sanctionnées. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que le ministre vient de dire, mais il ne faut pas se limiter seulement à la dénonciation. Il faut qu'il y ait des sanctions exemplaires pour dissuader les uns et les autres, pouvoir continuer à perturber le cadre de la vie de notre pays en occupant des terres de manière anarchique.
Mais est-ce que le ministère est en mesure de prendre des sanctions ou des décisions drastiques contre toutes ces personnes, ces autorités ou personnalités qui lotissent anarchiquement?
Oui, mais écoutez, tout ne peut se faire que dans le cadre de la loi. Donc, le ministre des Affaires foncières ne peut pas se réveiller un matin et commencer à prendre des sanctions. Ça n'est pas de sa compétence. Et donc, il faut que, s'il y a deux cas avérés, constatés, qu'il faut les dénoncer essentiellement auprès de l'autorité judiciaire, qui est habilitée à mener des enquêtes pour voir s'il y a des lois pénales qui ont été violées dans tel ou tel cas d'espace, et puis pour pouvoir agir. Donc on ne peut que concevoir l'intervention du gouvernement dans le cadre légal, mais il ne faudra pas envisager qu'il y ait des mesures arbitraires, des sanctions aveugles. Donc, il faut que tout cela soit encadré par la loi de notre pays.
Alors, il y a cet auditeur qui nous écrit de Bukavu, Robert Mahomé. Il dit ceci: les propos du ministre des Affaires foncières n'est pas loin de la vérité. Cependant, je pense que ce qui pose réellement problème dans le secteur foncier en RDC, ce n'est pas l'ingérence de certaines personnalités dans la distribution des terres, mais plutôt l'absence ou carrément l'inexistence matérielle d'une planification dans ce domaine et surtout le non-respect strict de la loi foncière, professeur.
Oui, c'est vrai, nous avons un gros problème, parce qu'est-ce qu'il y a le plan national ou c'est pas provincial en matière d'urbanisation, en matière de lotissement? Probablement qu'il y a des textes assez dispersés. Je crois qu'on a confié cette compétence dans le cadre de la décentralisation aux autorités provinciales, qui ont aussi cette compétence dans ce domaine-là. Et si vous allez aujourd'hui dans nos provinces, il est rare que vous puissiez trouver un plan provincial d'urbanisation ou de lotissement. On fait des choses à vue d'œil, tel qu'il y a des besoins qui se font sentir, ou s'il y a des gens qui arrivent au pouvoir, ils préfèrent avoir un peu de terrain pour construire. On leur dit, oui, écoutez, il y a un coin quelque part là, bon, allez-y, conservateurs, allez trouver, donner un peu de parcelles aux autorités, etc. Et ça provoque souvent des problèmes. Mais il faut que, à un moment donné, qu'on arrive dans notre pays à avoir des plans adoptés par des lois, bon, soit au plan national ou au plan provincial, pour bien structurer la politique en matière de lotissement.
Alors, vous avez dit que ce problème se pose depuis longtemps, mais pourquoi on n'arrive pas à trouver une solution par rapport à ça?
Oui, mais une solution, mais qui va trouver de solution? Ce sont les autorités en place. Je vous ai dit que c'est un problème qu'on hérite depuis la Deuxième République. Ça ne date pas d'aujourd'hui. On se plaint tous les jours des lotissements anarchiques, des occupations anarchiques de terrain, etc. Parfois, on fait des lotissements qui ne respectent pas les contraintes urbanistiques. Bon, mais ça, c'est l'autorité qui doit faire respecter les lois et règlements en vigueur dans ce domaine-là. Encore une fois, c'est la compétence de l'autorité en place qui doit veiller. L'autorité, au lieu de continuer de se plaindre, l'autorité doit agir, doit s'exercer.
Merci, professeur Tshibangu Kalala. Monsieur Steve Mbikayi, bonsoir.
Bonsoir.
Merci de nous rejoindre dans ce studio. Vous êtes député élu de la Tchangou à Kinshasa et membre de l'opposition. Vous êtes président du parti travailliste. Comment vous avez analysé les propos du ministre Machki Simba qui dénonce l'ingérence de certaines personnalités dans les constructions anarchiques en RDC?
Oui, merci madame. Tout à l'heure, quand je venais, j'ai suivi l'extrait du ministre dans la voiture. j'ai tout simplement commencé à rire.
Qu'est-ce que vous avez fait rire?
Parce que voilà un ministre qui est resté pendant autant de temps au ministère des Affaires frontières, qui est vers la fin de son mandat, il doit déjà sortir, il s'est réveillé pour comprendre que il a amené l'ingérence des autorités dans ses attributions. Il devait commencer d'abord par balayer devant sa propre porte, parce que la confusion qui est dans ce domaine est plus entretenue par les agents de ce ministère. Ce sont leurs responsables. Vous savez, madame, qu'avant de mettre, par exemple, des parcelles sur le marché, il faut qu'il y ait un plan approuvé par ce délai établi, son délai qui est le ministre. Mais il y a autant de lotissements à Kinshasa et ailleurs qui sont faits comme ça, sans qu'il y ait un plan, n'est-ce pas, cadastral approuvé. Et puis, ce sont les agents de ce ministère qui vont là-bas, qui délivrent le contrat aux citoyens congolais. Et puis, par la suite, on leur donne tous les documents voulus. Et puis, le ministre, il est homme du gouvernement. Ça m'étonne qu'une autorité, eh ben, organise un séminaire ou quoi, ou bien forum pour se plaindre des autres services de l'État, alors qu'il est membre du gouvernement. Il est censé poser des problèmes au sein du gouvernement, malheureusement il n'y a pas de réunion de conseil des ministres d'ailleurs, pour trouver des solutions. Il ne peut pas venir dans des forums pour fustiger le comportement des autres services de l'État. L'État est indivisible, là moi je n'ai pas compris ça.
Et donc vous dites qu'il doit commencer par sanctionner d'abord ses agents. Il a déjà fait parce qu'il a suspendu un certain nombre de conservateurs. C'est déjà un pas, c'est déjà chose.
Il doit commencer par mettre de l'ordre dans ses propres services. C'est très bien de pouvoir, n'est-ce pas, sacrifier les autres. Mais en tout cas, moi je pense que le désordre est généralisé dans ce domaine. Vous savez, madame, que dans ce pays, par exemple, le ministère des affaires foncières commence à considérer parfois une fiche parcellaire comme étant un document de propriété, ce qui n'est pas normal. Et sur base de cela, on délivre aux gens d'autres documents, tout ça crée de la confusion. Donc il y a autant de conflits suite d'abord à l'incompétence ou à la mauvaise foi et à la cupidité des agents du ministère des affaires foncières. Donc moi je pense qu'il faut d'abord commencer par s'attaquer à ces ministères avant de penser aux autres. Bien sûr, vous trouverez les gens de l'armée, les généraux qui s'accaparent des terres, certains officiers, mais au finish, ce sont toujours les gens du ministère des Affaires foncières qui viennent légaliser les lotissements illégaux, voilà.
Et les personnes qui vont au ministère pour avoir des titres, est-ce que eux ils ne sont pas en quelque sorte responsables aussi de ce qui leur arrive?
Mais dans un pays où l'État est mort, parce que quand on vous dit qu'il faut un état de droit, il faut c'est que l'État est mort. Il y a l'incompétence notoire de ceux qui nous dirigent. En fait, on ne contrôle rien. Et cette cacophonie, ce désordre profite au plus fort. Il suffit d'aller quelque part, prendre une parcelle de terre, quelque part, après quelques jours, aller au ministère. D'abord, vous savez, ces gens sont des fonctionnaires, ils sont mal payés. Et ils sont pas en pays, ils se payent eux-mêmes à travers certains frais qu'ils perçoivent ici et là, donc dans ce genre de choses. Ils vivent de ça, tout simplement.
Alors, monsieur Mbikaï, monsieur Dunia Idumbo, comment vous réagissez aux propos, aux analyses faites par monsieur Mbikaï et le professeur Tshibangu? Le ministre doit commencer par mettre de l'ordre dans son propre service.
Oui, et c'est tout à fait normal. L'honorable a raison en disant que nous devrons balayer devant chez nous. Voilà pourquoi nous disons ceci. Comme on n'a pas le pouvoir, on n'a pas des éléments d'un pouvoir coercitif par rapport à tout ce que nous venons de dénoncer, voilà pourquoi nous commençons par réarmer nos collaborateurs à nous, pour leur dire, voilà, lorsqu'il y a un lotissement anarchique, comme a dit l'honorable Mbikaï, ne venez pas régulariser. Donc tout celui qui vient régulariser, au lieu de pouvoir pleurnicher en aval, nous commençons par bloquer en amont. On ne vous délivre rien comme titre. Alors, avec comme conséquence, comme on ne vous délivre rien comme titre, les jours où l'État va se réveiller pour dire « ça, c'est toutes ces constructions sont anarchiques », vous ne viendrez pas dire que non, moi j'ai été Mais même si j'ai construit anarchiquement, mais il y a eu des services compétents par rapport à la loi foncière, donc par rapport à l'article 181. Donc, il y a eu des services compétents qui sont venus régulariser ce que j'ai fait anarchiquement. D'où nous commençons par bloquer.
Alors, cette émission est aussi pédagogique, Monsieur Dounia. Mmh. Et quelle est la procédure à suivre pour obtenir une autorisation de bâtir?
Bon, effectivement, comme donc je venais de suivre le professeur, voilà, un lotissement, pour avoir un véritable titre, ça doit être fait par rapport à un lotissement légal. Donc, les derniers plans d'aménagement, c'est depuis l'époque coloniale. Et le plan d'aménagement général, c'est le ministère de l'Urbanisme qui le fait pour pouvoir les transmettre au niveau du ministère des Affaires foncières. Et dès qu'on a le plan d'aménagement, on vient faire le plan par rapport à ce que nous appelons par rapport au lotissement. C'est par après, quand le lotissement a été créé légalement, que vous venez vous installer. Et on vous donne les contrats de location. Parce que c'est le tout premier titre qu'on donne, c'est le contrat de location. Là, maintenant, vous rentrez au niveau de l'urbanisme pour obtenir l'autorisation de bâtir par rapport à ce que vous avez fait comme plan pour votre maison, ce que vous devez construire.
Et c'est juste ça, la procédure.
Donc, la procédure, c'est ça. Dès que tout un lotissement a été fait légalement, au niveau du ministère des Affaires foncières, on vous accorde légalement un contrat de location et vous rentrez à l'urbanisme pour avoir l'autorisation de bâtir.
Alors, on va se rendre à Lubumbashi au Katanga où un conflit de terre oppose depuis quelques jours un groupe de notables des villages Kintu et Kipili dans le territoire de Kipushi. Groupement Shindaika, au responsable de l'entreprise Guinea Island Evolution, forme des discordes la vente par l'État congolais des sites où sont érigés ces villages. Dans un mémorandum déposé lundi dernier à l'Assemblée provinciale du Katanga, certains notables dénoncent cette situation et on appelle à l'implication des autorités. En attendant, il s'oppose à toute délocalisation. Pour sa part, l'entreprise incriminée rassure que sur ces sites sera érigée une nouvelle cité et qu'aucun villageois ne sera chassé. Les récits avec vous, Colin Jomomusopo.
Dans leur mémorandum, les notables des villages Kintu et Kipili déplorent l'expropriation de leurs terres par l'État congolais. Pour eux, l'État congolais vient de vendre leur village à l'entreprise de construction Geniland Evolution. Cette vente est contenue dans un protocole d'accord signé avec le chef de groupement Shindaika. C'est à la relecture de ces protocoles d'accord que les notables de ces villages se sont rendus compte que presque tous les villages, à savoir Kintu, Makaya, Kamatete et Kipili, qui sont vendus. Ils craignent ainsi de perdre leurs habitations et leurs champs. Pour leur part, les responsables de Geniland soutiennent le contraire. Ils indiquent qu'ils sont d'une part en partenariat avec l'État congolais et de l'autre avec le chef de groupement Shindaika et quelques notables. Ainsi, leur accord prévoit le recensement de tous les habitants de ces villages. Ces derniers vont aussi garder leurs habitations actuelles. Il convient de noter que dans leur partenariat avec le gouvernement, Geniland Evolution s'engage à construire une nouvelle ville. Lubumbashi, Colin Djuma Musompo, Radio Okapi.
Autre illustration, à Mbujima et au Kassa Oriental, la Miba minière de Bakwanga déplore, elle, la spoliation de plusieurs de ses terrains. Les responsables de cette entreprise pointent du doigt les services techniques de l'État et les autochtones communément appelés Bakwanga. C'est que rejette le chef de cette communauté, ainsi que les services cités dans l'affaire. Esther Dalafina pour les détails.
Le terrain spolié se trouve au camp Nyongolo, au bureau de la cité Nyongolo, à l'immeuble SMK, Swanepoul Miba Kassai et le département Miba. Une partie du terrain de Nyongolo est même déjà lotie. La Miba juge cet acte d'une occupation illégale car ces domaines n'ont jamais été rétrocédés à l'État. Léonard Mbouimou Tobola, directeur des services généraux de la Miba.
Il s'agit d'irréguliers, on parle d'autochtones, non autrement identifiés, et qui bénéficieraient de la complicité de certains agents des services techniques. Le problème a été posé à plusieurs reprises à qui de droit. Nous n'avons pas d'autre moyen que de reposer à nouveau ce problème qui menace l'avenir de la MIBA.
Le chef de division urbaine du cadastre, un service technique en la matière, rejette ces allégations. Banyanga Ville d'Ibindi, chef de Bakwanyangwile, déplore aussi cette spoliation. D'après le chef des autochtones, l'État congolais n'a jamais réagi face à ces actes.
Ce ne sont pas les autochtones, ce sont les les venins en association avec les cinq castaniers. Nous avons pu passer tous les moyens du côté de la MIBA pour empêcher cette vente. Mais l'État reste calme dans cette situation.
Le ministre provincial de l'Intérieur met ainsi en garde tous les acheteurs de parcelles car ils risquent de perdre leur argent. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Merci Esther Ndalafina. Professeur Tshibangu Kalala, vous êtes aussi avocat. Je suis sûre que vous avez eu à plaider ou à défendre beaucoup des dossiers liés au conflit foncier. Lorsque vous vous retrouvez devant des cas comme ça où l'État et les chefs coutumiers sont en conflit ou se disputent, c'est pas une terre, un lopin de terre, comment vous vous y prenez?
Oui madame, là vous touchez du doigt le vrai problème dans ce pays. Tous les avocats, tous les praticiens du droit savent que à peu près 80%, si pas plus, des conflits devant les cours et tribunaux dans notre pays, ce sont des conflits parcellaires, des conflits fonciers. Donc, c'est un mal profond dans notre pays. Et pourtant, les textes existent. Mais c'est le problème de l'application de ces textes qui se pose. Je vois le conflit de Kipushi. Mais ce type de conflit, ça s'est réglé par le code minier. Et c'est très clair. Il faut partir du principe, madame, et ça, comme vous avez dit, cette émission aussi a un objectif pédagogique, et c'est pour cela que j'ai accepté de venir participer à cette émission. Les gens doivent savoir que toute la terre est déjà distribuée. Toute la terre. Le globe terrestre. Il n'y a plus de terres vacantes qui sont occupées. Tout est fait. Et dans notre pays, et ça c'est depuis la fameuse loi Bakajika 1966, mais qui a été remodelée en 1973, la loi qui est actuellement en vigueur. Ça s'appelle le code foncier dans notre pays, 73, 73, eh bien, la terre dans notre pays appartient à l'État. C'est l'État qui est propriétaire de la terre. Eh bien, les chefs coutumiers, les communautés rurales, tout ce que vous voulez, ces gens doivent savoir qu'il n'y a plus cette notion de terre ancestrale qui appartiendrait aux ancêtres. Ça, c'est l'État qui est propriétaire. Parce qu'on vient par exemple avec un projet de développement comme celui de Kipushi, mais il y a des villageois qui s'y opposent. Non, c'est parce que c'est l'État qui est propriétaire et qui peut céder telle ou telle portion de la terre à n'importe quel investisseur. Ça, il faut vraiment qu'on comprenne cela. Mais la loi est aussi claire à ce sujet. Mais il faut tenir compte des intérêts des communautés rurales, des habitants de ces terres. Ce sont des êtres humains. Ils vivent là-bas depuis des siècles, on ne va pas les chasser comme ça, comme des malpropres. Et donc, il y a des clauses sociales, des clauses environnementales, etc. Il y a des programmes de relogement de ce type de population sur des sites appropriés. Et même des compensations qui sont prévues dans les codes. Et donc, c'est à l'État de veiller à ce que ces clauses-là qui sont prévues dans la loi soient appliquées, notamment dans le cas de Kipushi, par exemple. Mais je ferme la parenthèse. Il y a le cas de Mbujimayi, mais ça, c'est de l'anarchie, n'est-ce pas? Le non-respect des textes. La volonté de s'accaparer de terres d'une entreprise minière parce que peut-être ces terres-là sont vacantes. Qu'est-ce qu'il faut faire, madame? Peut-être qu'on
ça aborde sera dans la deuxième partie de l'émission. Question.
Et donc, je vous dis que parfois, les avocats sont désemparés devant ce genre de choses, mais c'est la loi. Les solutions existent, c'est prévu par la loi, mais il faut tout simplement les appliquer. Et donc, comme je disais il y a un instant, l'autorité ne doit pas se plaindre. L'autorité doit s'exercer. Le pouvoir ne doit pas se plaindre, le pouvoir doit s'exercer. Et donc, ce sont les autorités qui ont l'appareil d'État à main, qui ont ce pouvoir de faire respecter les lois, qui doivent agir, tout simplement.
Monsieur Steve Mbikai, les conflits entre chefs coutumiers et État par rapport à un terrain, est-ce que ce n'est pas aussi le manque de vulgarisation de cette loi par l'État qui pousse souvent les communautés ou les chefs coutumiers à s'approprier des terres?
Oui, c'est vrai, comme m'a dit Maître, c'est le manque d'informations. Jusqu'à les gens continuent à croire que les chefs coutumiers ont le droit dans les terres. Encore une fois de plus, le ministère encourage, parce que moi je suis à Tchangou, vous verrez parfois les gens s'adresser aux chefs coutumiers, qui leur donnent des concessions, et par après ils vont au cadastre, on légalise. Et pourtant, cette compétence ne relève pas des chefs coutumiers, donc ça relève de l'État. Il n'y a que le Parlement, il n'y a que le chef de l'État, le ministère de l'Affaires foncières et les gouverneurs qui ont cette compétence selon la loi pour attribuer la terre. Et c'est pas le cas aujourd'hui. Je pense qu'il faut bien sensibiliser l'autorité coutumière pour qu'elle comprenne que c'est pas sa compétence. Je crois que c'est cela. Mais dans tout ça, quel est le vrai problème? Le problème social. Vous voyez, on peut beau avoir des lois,
Mais quand nous sommes dans un État qui n'a pas de politique d'habitat, les gens se débrouillent, tant bien que mal, pour avoir une portion de terre. Donc, on peut me dire aujourd'hui que notre État veille à l'habitat. Non, ça n'existe pas. Et je me demande bien ce que fait chaque jour le ministre de l'Habitat dans son bureau. Parce qu'il n'y a pas de logements sociaux, on ne construit rien. Eh bien, chacun se débrouille pour avoir une passe de terre. Il faut commencer par résoudre ça. Et là, j'ai entendu...
Même illégalement, on cherche à avoir un loupette.
Mais c'est-à-dire, quand déjà tout est illégal ici. L'anarchie est totale. Pas illégal, mais l'anarchie est totale ici. C'est pas seulement dans ces domaines d'affaires foncières. C'est dans tous les secteurs que ça ne marche pas. Et tout à l'heure, notre ami, l'affaire foncière, a dit que le jour que l'État va se réveiller, faut pas se plaindre. Donc, l'État dort. L'État est inexistant. Et c'est ça la véritable cause des maux au Congo. Pas seulement au sein des ministères, mais dans tous les secteurs.
Mais est-ce que vous aussi politique, vous n'avez pas une responsabilité par rapport à la vulgarisation de cette loi?
Mais bien sûr que oui, parce que nous avons ici à faire un problème, excusez-moi des termes, c'est trop dur, un peu d'incompétence, en fait. L'incompétence généralisée, une démission de toutes les autorités. Parce que moi, je ne peux pas comprendre que les gens qui sont censés trouver des solutions aux problèmes se plaignent. On ne peut pas se prévaloir. C'est votre turpitude. Vous voyez? Mais comme a dit notre ami des affaires foncières, en fait, il dit que voilà, quand on va se réveiller, il ne faut pas vous plaindre. Mais ces gens-là, ils payent d'abord l'argent à l'État, à la DGRAD, avant d'avoir le titre qu'ils possèdent. Alors à qui la faute? L'État perçoit l'argent dans des documents, et demain on vient de démolir, comme on le voit souvent ici.
Est-ce que vous arrivez aussi d'évoquer ce genre de questions lorsque vous organisez vos réunions dans vos partis politiques, M. Mbikaï?
Non, mais je ne pense pas que le parti politique, franchement, passe leur temps à s'occuper de ça.
Est-ce que ce n'est pas une question importante?
C'est une question importante qui doit se régler au sein des institutions, pas au sein des partis politiques. Ça, c'est pas de notre compétence en tant que parti politique, en fait.
Et bien, quand si même, vos militants à suivre la procédure pour s'acquérir ou avoir une autorisation de bâtir.
Mais qu'est-ce que vous allez dire à quelqu'un qui sait où habiter, il n'y a pas de logement? Les gens ne font que s'accroître à Kinshasa. Et entre-temps, est-ce qu'il y a une politique en cette matière d'habitat de la part de l'État? Eh bien, chacun se débrouille, tant bien que mal. Et qu'est-ce que vous allez faire en ce moment-là? Donc, il faut commencer par restaurer l'État ici. L'État n'existait pas. Et je me demande trop bien, même, on veut diriger pour diriger. Donc, l'incompétence ici est totale. L'échec est puissant dans tous les domaines de l'État, y compris dans ces affaires foncières. Merci. La preuve que le ministre lui-même s'est plaint, lui qui devait trouver des solutions au problème.
Merci, M. Mbikaï. On va prendre quelques réactions des auditeurs. Professeur Inès Ndala de Colesio Katanga, tout en saluant l'initiative du ministre des tutelles, je voudrais faire remarquer que la loi foncière en RDC n'est pas bien connue des requérants. On se demande en fait qui vend ou distribue les terrains. Nous payons plus cher au cadastre qu'au titre immobilier. Pour un même terrain, Robert Baomé de Bukavu, j'ai déjà lu cette réaction. Jean-Bernard Mibeko de Mbandaka, l'Équateur. Les propos du ministre sont à la fois ceux d'un constat amer et d'un aveu d'impuissance. C'est tout simplement le fruit de l'impunité. Rosny Mutereka de Bukavu, Sud-Kivu. Le ministre peut bien vouloir sanctionner ces gens qui ont spolié les terres, vendu même les appartements publics, mais cette décision risque de ne pas aboutir. Ces mêmes agents qui ont le mandat de protéger l'environnement sont ceux qui les détruisent. Ils donnent même les autorisations de bâtir pour des lieux défavorables. Monsieur Dounia, que faut-il faire pour remettre de l'ordre dans les secteurs fonciers en RDC?
Bon, c'est trop simple. C'est la volonté de l'État. Si l'État se décide un jour de mettre fin à l'anarchie qui est là, et cette anarchie prendra fin.
Si l'État se décide, donc l'État, oui, en quelque sorte favorise, entretient ce désordre.
Non, je ne dis pas que l'État entretient les désordres. Si l'État se réveille pour se dire que non, aujourd'hui je mets fin, nous allons mettre fin à cette anarchie.
C'est une question de volonté.
C'est une question de volonté par rapport à ce que nous sommes en train de faire. Pour nous, quant à nous, au niveau des affaires foncières, nous disons ceci. Le seul moyen qu'on a, la seule arme qu'on a, c'est de pouvoir garder très bien nos collaborateurs en leur disant voilà ce qui est à faire et voilà ce qui n'est pas à faire. J'ai suivi le professeur par rapport au conflit. Je vais revenir sur le conflit du village Kintu, parce que j'ai eu à lire cette correspondance. Effectivement, la plupart des gens oublient. C'est depuis 1973, le principe, c'est la domanialité de toutes les terres en République démocratique du Congo. Si l'État s'est dit pour le développement, on est en train de crier ici que non, on n'a rien comme politique d'habitat. Si l'État s'est dit, je vais, par rapport au développement de mon secteur d'habitat, je vais lotir ici. Effectivement, par rapport à l'article 193 de la loi foncière, il y a ce que nous appelons les enquêtes de vacances, pour essayer un peu de voir comment on peut délocaliser la population autochtone qui a les droits de jouissance sur cette terre rurale, comment les délocaliser, parce que vous n'allez pas, comme a dit le professeur, vous n'allez pas quand même pas jeter toute une population comme ça. Mais par rapport au développement, l'État a la primauté, parce que c'est le principe de la domanialité de toutes les terres en République démocratique du Congo. Parce que si vous analysez très bien, si on laisse l'initiative aux ayants droit coutumiers, à quoi va servir tout cet argent si ce n'est pas mettre ça dans sa poche? Même un seul membre de la communauté n'aura absolument rien. Donc, ce qui fait que l'État doit penser aussi à la vulgarisation. C'est ça l'outil principal aussi que nous avons pour pouvoir faire comprendre à la population la loi foncière. Parce que toutes les lois que nous avons aujourd'hui, les lois qui gèrent les domaines privés de l'État, ne sont pas mauvaises, toutes ces dispositions-là. Mais c'est la façon de pouvoir faire comprendre à la population. Au jour d'aujourd'hui, voilà pourquoi, pour mettre fin à l'anarchie, donc dans des lotissements anarchiques, pour nous, ce sont nos collaborateurs, tout simplement, que nous rappelons à l'ordre, pour dire, évitez-nous à ce que nous puissions régulariser les lotissements anarchiques. Ceux qui se disent, ils sont puissants par rapport à l'État, ils n'ont qu'à aller occuper, et à la fin, ils n'auront pas de titre, ils n'auront rien. Parce que pour faire constater les droits de propriété, il faut avoir un titre. Si vous n'avez pas un titre, donc vous êtes là, quitte à vous, un jour l'État viendra, et balaye tout ça, vous allez comprendre que non, j'ai perdu mon argent, d'où je ne ferai plus ça. Je serai obligé de pouvoir me rabattre par rapport aux autorités compétentes pour suivre la procédure normale. Donc c'est la seule arme que nous avons aujourd'hui, dénoncer et voir bloquer par rapport à nos collaborateurs.
Professeur Tshibangu Kalala, comment mettre fin à cette anarchie dans le secteur foncier en RDC?
Oui, alors madame, je ne sais pas si on est déjà dans la deuxième partie.
C'est déjà la deuxième partie.
Merci bien. Écoutez, j'ai une préoccupation depuis de nombreuses années, et c'est une préoccupation qui est partagée par beaucoup d'avocats, compte tenu du nombre extraordinaire des conflits par ces débats les causes des tribunaux. Alors, comment régler ces problèmes? On peut voir ce qui se passe dans d'autres pays. Aux États-Unis d'Amérique, par exemple, eh bien, vous voulez acheter une maison, un appartement, vous devez nécessairement passer par un avocat qui doit vérifier les documents, qui doit rassurer avant que vous ne puissiez pas. Parce que la plupart des conflits aujourd'hui, c'est que oui, on a vendu ma voiture, je n'étais pas là, vous voyez, bon, mes enfants ont fait ceci, moi je n'étais pas là, etc. Et donc, des problèmes sur problèmes. Vous allez en Europe, la Belgique, c'est l'un des pays que je connais le mieux, j'ai étudié là-bas, j'ai vécu là-bas pendant des années. Eh bien, madame, vous voulez acheter un appartement en Belgique et une maison, vous êtes obligé de passer nécessairement par un notaire. Vous voulez acheter un appartement, vous arrivez chez lui, il garde le dossier de cet appartement-là pendant des siècles. Donc, on veut vous dire, monsieur, l'appartement que vous achetez aujourd'hui en 2012, cette parcelle a été créée il y a deux siècles et vous avez sous vos yeux toutes les propriétés qui sont suivies depuis deux siècles jusqu'à vous, pour éviter les problèmes. Et puis moi, je pense que l'une des réformes qu'il faut proposer, parce qu'il faut revoir la loi foncière, il faut faire en sorte que les avocats interviennent de manière impérative dans tout ce qui est transactions, opérations immobilières. Évidemment, je ne cherche pas à donner à ce que les avocats s'enrichissent, qu'on leur donne des dossiers, parce que je suis moi-même, mais c'est une
Il faut de l'argent pour engager un avocat et pour les familles qui n'ont pas assez de moyens.
Oui, mais justement, quand ces familles ont des problèmes, il faut chercher l'avocat. Voilà, maître, on vient de m'arracher ma maison à ma tétée, notre papa était décédé, mon grand frère a vendu, nous on n'a rien. Ils vont chercher l'avocat, mais après, mal fait. ou bien j'ai acheté, ce sont des héritiers qui m'ont vendu mal, mais je récupère mon argent. Donc, il faut une règle posée dans la loi que pour vendre une maison, eh bien, il faut qu'un avocat intervienne dans la procédure pour vérifier les documents, savoir si c'est règle, et l'avocat engage lui-même sa propre responsabilité. Parce que s'il y a des problèmes demain, on va le poursuivre lui-même. Je dis, voilà, maître, mais vous m'avez induit une erreur, vous m'avez conseillé pour acheter, mais je vois que j'ai acheté mal, il y a des problèmes, eh bien, vous assumez la responsabilité. Ça passe par là. Et quand vous arrivez chez le conservateur, le dossier est déjà propre et bien vérifié. La plupart des Congolais qui veulent acheter des biens, des maisons, des immeubles, qui s'adressent aux avocats, ont moins de problèmes, parce qu'il y a une vérification. Mais là, ça doit être obligatoire dans le pays. Ça va nous permettre de réduire ce nombre extraordinaire des conflits parcellés devant les cours des tribunaux, et on va rassurer la population. Voyez-vous, vous savez. Et ça, c'est une réforme majeure que je propose, au lieu de continuer à dire oui, etc. Il y a aussi la manière dont les services de conservation fonctionnent, madame. La question de l'archivage. Parfois, vous allez chez le conservateur, vous ne trouvez pas le dossier. Quelqu'un a déplacé. Et donc, il faut arriver à l'informatisation. J'ai entendu le ministre parler de la question de l'informatisation. C'est indispensable. Nous devons être en mesure de localiser chaque parcelle avec son dossier quelque part, chez le conservateur ou chez les indépendants. Donc, il faut tout un travail de réforme de la loi foncière. Et moi, je propose ce soir une idée pour faire en sorte que toutes les transactions immobilières, les mutations des propriétés ne peuvent se faire qu'avec il faut passer par l'avocat qui doit vérifier. Merci. Parce que ça permet à l'État de percevoir son argent avec les impôts. L'avocat va payer les impôts, l'administration va récolter les impôts, et ça marche, on va réduire de manière substantielle.
Merci, professeur.
Les conflits partiels dans notre pays.
Merci, professeur. Monsieur Mbikaï, vous, quelle solution vous proposez pour mettre de l'ordre dans ces secteurs?
C'est d'abord le respect de la loi. Parce que la loi est là, elle a tout réglementé, donc, mais les gens ne suivent pas la loi. Et les citoyens, et les autorités, ben, tout le monde marche sur la loi. Les gens doivent savoir qu'avant d'avoir une parcelle, il faut exiger que cette parcelle soit sur un plan cadastral, donc légal, sanctionné par un arrêté, par exemple, du ministre. Et quand on a cette portion de terre, il ne faut pas se contenter d'avoir une fiche parcellaire comme on le fait ici. Il faut absolument avoir un certificat d'enregistrement de cette parcelle. En fait, parce que la plupart des gens ici ont soit ce qu'on appelle livret de logeur, ils ont ce qu'on appelle fiche parcellaire, et c'est prévalent d'être propriétaire de ce terrain. Mais surtout, qu'est-ce qui se passe ici, madame? C'est une question de l'offre et de la demande. Il y a tellement de Congolais et moins de places urbanisées que, eh bien, les peu de places qu'il y a, les gens se battent pour les avoir, même anarchiquement. Mais je pense que l'État doit avoir une politique cohérente en matière d'habitat. Nous avons beaucoup de terres, mais M. Kinshasa, quand vous allez vers Ancelé, vers l'aéroport, eh bien, l'État pouvait urbaniser ces coins. Ça serait même de nouvelles villes. Si on minimisait les avenues, on mettait de l'eau, l'électricité, je pense que les gens qui ont des moyens, au lieu de se concentrer à Gombe, à Limété, à Matété, eh bien, ils pourraient partir là-bas. Il y aura de moins en moins de conflits.
En conclusion?
En conclusion, je dis que l'État doit mettre de l'ordre dans sa boutique. Et ce n'est pas normal que l'État se plaigne. Parce que là, il veut se prévoir sa turpitude. Le ministère, comme ça fait France, ne doit pas dire, voilà, il y a le plus fort que nous, il y a l'armée, mais ça c'est le monde à l'envers. Donc ça c'est pas normal
en fait.
Merci
Monsieur Mbikaï, Monsieur Dunia, votre conclusion.
Nous disons ceci, nous ne venons pas nous plaindre, mais nous venons dénoncer et voir comment nous allons faire. Seule arme que nous avons, c'est de pouvoir bien contrôler nos collaborateurs à nous.
Donc,
voilà pourquoi.
Oui.
Merci, M. Doudina. Professeur, conclusion contre Gaulle.
Oui, madame, je pense que je fais une proposition ce soir pour réduire le nombre de conflits. Il faut prévoir l'intervention des avocats dans ce type de transaction. Et deux, pour moi, il faut supprimer la notion de bien 100 mètres. parce que c'est aussi une source de conflit. Vous êtes distrait, on dit, écoutez, ben, vous avez voyagé, ça fait 10 ans, bon, l'État récupère, ça fait beaucoup de conflits. Je pense qu'il faut que les avocats interviennent par la loi.
Merci, professeur, c'est la fin de cette émission. Merci.